Nous sommes une famille, un seul cœur, un seul esprit. Les distances ne nous séparent pas. Nous sommes un en toi.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir également aux internautes qui nous suivent. Je voudrais encore, avant de commencer, remercier tous ceux, toutes celles qui ont prié pour nous. J'ai déjà remercié dimanche, mais pour tous ceux qui n'étaient pas là dimanche, merci à tous ceux qui ont prié pour notre voyage en Israël. Nous avons vraiment vécu des moments extraordinaires, juste merveilleux. Pour ceux qui étaient avec nous, ils peuvent en témoigner. Et l'Esprit de Dieu était avec nous, il a guéri également une personne qui souffrait de son dos de manière latente depuis longtemps. Elle a été opérée à deux reprises et cette personne ne pouvait pas lever sa jambe gauche, je crois, plus de 10 cm. Et au bout de 3-4 jours de voyage, elle n'avait plus de douleur dans son dos et elle montait sa jambe tout comme l'autre. Vraiment, Dieu est extraordinaire. Nous avons vraiment eu la bénédiction de Dieu du début à la fin. Je sais que beaucoup de gens se sont inquiétés pour nous parce qu'ils entendaient divers événements sur nos médias. Mais nous, personnellement, on n'a rien vu du tout. On était dans une paix totale, insouciant. Parce que je crois que quand Dieu est avec nous, qui peut être contre nous, n'est-ce pas? Et je crois simplement que si on crie à Dieu de tout notre cœur et si on met notre foi en pratique, eh bien Dieu nous exauce, il nous entend, il nous voit. Amen. Amen. Ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous et le titre de mon message, est le suivant. Jusqu'où veux-tu aller avec Dieu? Jusqu'où voulons-nous aller ensemble avec Dieu? J'étais étonné tout à l'heure quand le Seigneur parlait au travers de la bouche de Svetlana où il nous interpellait en disant qu'il désirait que nous devenions ses imitateurs. Et c'est la première phrase que j'ai prise dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 1er, où Paul nous invite à devenir les imitateurs de Dieu. Et je prends cela pas comme une coïncidence, mais simplement parce que je crois que Dieu veut nous inciter à devenir des imitateurs. Des imitateurs de sa personne, premièrement. Ensuite, nous verrons ce que Paul nous dit à ce sujet. Devenir imitateur de Dieu est malheureusement plus facile à dire qu'à faire. On est tous d'accord. Nous restons humains avec nos défauts, avec nos manquements, avec nos chutes, nos rechutes, avec toutes les difficultés que la vie nous impose. Et nous faisons parfois des choses qui ne reflètent pas du tout la gloire de notre Seigneur. Et on pourrait alors être tenté d'être découragé, de jeter l'éponge et de dire que de toute façon, on échouera. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous découragions, bien au contraire. Lui, il est parfait, il nous connaît, il connaît les cœurs de ses créatures. Et il ne veut pas que nous abandonnions, il ne veut pas que nous échouions dans nos tentatives de le suivre, de l'imiter. C'est la femme d'un pasteur qui disait un jour à son mari qui rentrait du culte, « Tu peux arrêter de sourire, tu es à la maison maintenant. » Il y avait une grosse contradiction entre ce qu'il voulait représenter dans l'église et ce qu'il représentait en réalité à la maison. Et parfois, ma femme me dit, il me fait la réflexion en disant « Hey, tu es parfois plus sympa avec les autres qu'avec moi. » Voilà, je vous dis la vérité, hein, c'est vrai, elle dit ça, hein, Karine, tu dis ça parfois. Oui, elle secoue la tête en faisant « Oui, à ma grande honte. » Heureusement, Dieu ne se soucie pas du fait que nous ne soyons pas encore arrivés. Il ne nous tient pas rigueur de cela, mais ce qui intéresse Dieu, c'est quel est mon état de cœur pour arriver à progresser dans ma vie. Ce qui compte pour Dieu, c'est que nous continuions à grandir sans arrêt. Voilà ce que le Seigneur désir. Voyons ensemble ce que nous dit l'apôtre Paul ailleurs dans le livre des Philippiens au chapitre 3 et au verset 12. On va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Voilà ce que Paul nous dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. C'est une parole qui est très forte de la part de Paul. Et Paul dit, soyez tous mes imitateurs, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Paul s'érige là en quelqu'un qui a réussi, on pourrait le croire, parfaitement. Et il nous invite à porter le regard sur ceux qui marchent selon le modèle qui a réussi. Paul emploie ici le mot mimélès en grec qui veut dire littéralement imitateur. Celui qui imite, le verbe miméomai qui signifie l'action d'imiter, soit au sens physique, voix, geste, cri, soit au sens moral, action et qualité. Mais il y a plusieurs sortes d'imitation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a plusieurs sortes, il y a plusieurs manières d'imiter. D'ailleurs, j'ai vu l'autre jour sur Internet un oiseau particulier qui était capable d'imiter n'importe quel bruit. C'est assez extraordinaire. Et cet oiseau s'appelle l'oiseau lyre. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cet oiseau. Moi, c'était la première fois que je voyais cet oiseau extraordinaire. Et j'ai pris juste un petit morceau. Peut-être, si ça marche, on peut passer un extrait sur les écrans de cet oiseau particulier.
Derrière ce plumage se cache un oiseau au ramage le plus spectaculaire qui soit. L'oiseau lyre possède le don étonnant de reproduire avec précision les sons qui l'entourent. Son organe vocal est le plus élaboré de tous les oiseaux chanteurs. Depuis quelque temps, l'oiseau lyre imite de nouveaux bruits qui ont envahi son environnement. Un appareil photo. Différents modèles. Une alarme de voiture.
Celui-ci est voisin d'un chantier. Écoutez-le bien. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Dans la nature, vous avez des imitateurs extraordinaires. On peut imiter quelqu'un sans vouloir lui ressembler. C'est le cas des imitateurs qui se moquent parfois à la perfection de certaines personnes. Et c'est souvent les hommes politiques qui en font les frais. Je ne cite pas de nom d'imitateurs, mais vous les connaissez aussi bien que moi. Et ces gens-là sont talentueux. Mais ils n'ont pas envie de ressembler aux personnes qu'ils imitent. Mais ce n'est pas ce genre d'imitation dont nous parle l'apôtre Paul. Ce n'est pas de cela que Paul veut nous parler. Martin Luther disait la phrase suivante. Ce n'est pas l'imitation qui fait les fils, mais la filiation qui fait les imitateurs. Je répète cette phrase, elle est intéressante. Ce n'est pas l'imitation qui fait les fils. Je peux imiter quelqu'un et je ne pourrais, parce que je l'imite à la perfection, je ne serai jamais son fils. Mais c'est la filiation qui fait que je suis le fils de mon père. Mais aussi, j'imite mon père. J'ai un héritage de mon père. D'ailleurs, on dit tel père, tel fils. Vous connaissez cette phrase. Paul est-il un orgueilleux en se présentant comme un modèle? C'est du fond d'une prison romaine qu'il écrit cette lettre aux Philippiens. Il est en prison, dans le froid, il est en automne, en l'an 63, entre 62, 63, 64, on ne connaît pas exactement la date, mais il est enfermé, il est en prison, et c'est du fond de sa prison qu'il écrit ça. Et Paul nous dit, je cours vers le but. Et dans ce même verset, il précise quelle est la finalité de sa course. Qu'est-ce qu'il vise en courant vers le but? Il dit, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Le prix de l'appel lancé par Dieu pour lui. Et ce prix est en Jésus-Christ. Voilà le pourquoi de sa course. Il ne court pas pour rien. La raison de sa course, c'est pour remporter le prix. Est-ce que nous voulons remporter le prix? Le prix, c'est de voir Jésus face à face. Le prix, c'est de vivre éternellement dans la joie, dans la sérénité, dans la paix. Le prix, c'est de pouvoir arriver devant Dieu et de déposer à ses pieds les couronnes de grâce qu'il nous a faites, de toutes les âmes que nous aurons pu gagner pour le Seigneur. Le prix, c'est de vivre éternellement dans la paix, dans la joie, sans souffrance, sans difficulté, sans lutte. Il a commencé par lire ce verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Il n'est pas arrivé, et jusqu'au bout de sa vie, Paul sait qu'il n'est pas arrivé. Il est presque à la fin de sa vie, mais il n'est pas arrivé. Et tant qu'on a les deux pieds sur la terre, nous ne sommes pas arrivés. Et je crois que tant qu'on a les deux pieds sur la terre, on peut encore progresser, encore découvrir Dieu de manière plus puissante encore dans nos vies. Et de voir sa puissance, sa gloire de manière encore plus grande dans nos vies, quel que soit notre âge. Il n'y a pas d'âge devant Dieu. Nous vivons éternellement. Je le dis souvent. Il ne prétend à rien d'autre qu'à faire des Philippiens de bons suiveurs de Jésus. C'est son objectif. C'est pour ça qu'il leur écrit. Il dit aux Philippiens, faites ce que je fais, suivez-moi, suivez mon modèle, suivez mon exemple. Jamais il n'oublie ce qu'il a été autrefois, à savoir un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il n'oublie pas cela. Il ne l'oublie pas. Mais maintenant, sa vie est la preuve de sa consécration. Sa vie est la preuve d'un changement radical, d'un changement que l'Esprit de Dieu seul a pu opérer en lui-même. Puisse le Saint-Esprit nous bouleverser complètement. Il ne s'agit pas d'imiter n'importe qui ni n'importe quoi. Paul est un modèle de vie au quotidien. Et nous devons devenir des modèles de vie au quotidien. Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens et vivre n'importe comment. On ne peut pas. On n'a pas le droit. C'est bafouer le nom du Seigneur. Je n'ai pas le droit de prétendre être chrétien et entretenir mon péché que je connais au fond de moi-même. Je n'ai pas le droit. Sinon, j'attire avec moi, je suis un mauvais exemple pour beaucoup de personnes, et j'attire avec moi des gens à la perdition. Paul était un modèle de vie. Il dira dans le deuxième livre des Thessaloniciens, il reprendra certaines personnes à un moment donné dans le deuxième livre des Thessaloniciens, au chapitre 3, versets 7 à 9, il dit, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Intéressant, n'est-ce pas? Nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous étions des modèles, des exemples. Paul n'est pas prétentieux quand il dit ça. Il dit ça parce que c'était une réalité dans sa vie, en parlant des frères qui l'accompagnaient. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. En clair, il dit là, je n'ai profité, nous n'avons profité de personne. On n'a pas profité de la situation de certaines personnes, non? Mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Quand je lis cette phrase, c'est étonnant. La barre est placée haute. Nous avons travaillé nuit et jour. Parce qu'il a le souci des gens qui sont perdus. Il a le souci des âmes qui sont en souffrance. Paul n'a pas ménagé ses efforts. Malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes, en tout cas en Occident, dans une génération où la notion d'effort, où la notion de travail devient parfois presque une insulte. Pardonnez-moi si je vais un peu fort ce soir. Mais parfois, on a l'impression que tout doit être donné. Tout doit descendre comme ça avec facilité, que la souffrance doit plus exister, qu'on ne doit plus faire d'efforts, que ça c'était bon pour nos grands-parents et arrière-grands-parents, mais nous aujourd'hui, la vie doit être plus facile parce qu'on a payé pour cela. Paul ne nous dit pas cela. Ce n'est pas que nous n'en ayons pas le droit, dit-il, mais nous avons voulu vous donner en vous-même un modèle à imiter. Un modèle à imiter. Suis-je un modèle aujourd'hui? Mettons en règle notre vie à la maison, au travail. Avant de vouloir servir Dieu, nous devons être en règle nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu, mais intérieurement, ils gardent encore des choses, des petits péchés cachés, des choses qui leur conviennent bien, des choses de la vie auxquelles ils sont attachés plus qu'à Dieu. Et Dieu ne se partage pas. Avant de vouloir servir Dieu, nous devons nous mettre en règle. C'est ce que Paul dit dans le deuxième livre des Thessaloniciens, toujours dans ce chapitre 3, au verset 11, un peu plus loin. Il nous dit: nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Alors, je ne sais pas dans quel contexte Paul était, je ne connais pas le contexte économique dans lequel étaient les Thessaloniciens à l'époque où Paul écrivait ces choses. Peut-être que le chômage n'existait pas, mais nous avons peut-être des circonstances atténuantes dans le siècle dans lequel nous vivons, peut-être, je n'en sais rien, mais moi personnellement je crois que Dieu n'a pas changé et je crois que celui qui cherche vraiment la face de Dieu, je crois que celui qui vraiment veut plaire à Dieu, eh bien Dieu lui ouvrira des portes qui lui permettra, des portes qui lui permettront, pardon, de trouver un job, de trouver un travail et de pouvoir, eh bien, vivre du fruit de son travail. On est dans une société aujourd'hui où, en tout cas, on ne sait pas pour combien de temps, en tout cas aujourd'hui c'est encore comme ça, où même si on n'a pas de boulot aujourd'hui, eh bien, on reçoit des subsides de l'État et c'est bien, c'est bien. Mais en tant que chrétien, faisons attention de ne pas profiter de cette situation, parce qu'alors là, la bénédiction de Dieu se retire de nos vies. À partir du moment où j'essaye de profiter d'une situation qui, dans mon fort intérieur, je sais, n'est pas juste, alors la bénédiction de Dieu se retire de ma vie. Et je ne peux pas obtenir les promesses de Dieu. Je lisais l'autre jour un article intéressant, et peut-être il y a des gens qui sont victimes de catastrophes dans leur vie, victimes de choses qui leur tombent dessus, et qui peuvent être des découragements totaux. Mais je crois vraiment que si nous aimons Jésus, et si nous le connaissons personnellement, eh bien, d'une manière ou d'une autre, il vient à notre secours. Je lisais l'autre jour un article intéressant sur l'horlogerie suisse. Et l'histoire de l'horlogerie suisse est intéressante. Parce qu'elle a débuté avec les Huguenots qui ont été chassés de France à la Saint-Barthélemy. Et les orfèvres, il y avait parmi les Huguenots des orfèvres. Et certains se sont retrouvés dans des villages, à l'époque des villages, comme la Chaux-de-Fonds, dans le Jura suisse. D'autres se sont retrouvés à Genève. Et c'est intéressant de voir que ces Huguenots ont dû fuir la France et ils ont tout perdu. Tous leurs biens leur ont été pris. Et puis on les retrouve, ils trouvent refuge donc en Suisse. Et à Genève, en tout cas dans le canton de Genève, on leur donne gratuitement, on va leur donner gratuitement la naturalisation à condition qu'ils enseignent leur métier à ceux qui le désiraient. Et c'est ainsi qu'est née l'horlogerie suisse, qui est encore aujourd'hui l'un des pans économiques les plus importants de ce pays. C'est quand même extraordinaire. Et Samuel dit « grâce aux Français ». C'est pas ce que je voulais dire dans mon message. Mais ce que je veux dire, c'est que celui qui fait confiance à Dieu, la bénédiction va rester collée à sa vie. Celui qui veut obéir à Dieu, vous allez me dire « ouais, mais ça s'est passé au Moyen-Âge ou à la Renaissance ». Non. Ce mode-là est valable dans toute la parole de Dieu, et encore aujourd'hui, c'est la même chose. C'est pareil, Dieu n'a absolument pas changé. Est-ce que vous croyez cela ? Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, c'est le créateur de toutes choses, et il crée encore toutes choses nouvelles aujourd'hui. Et Thibaut, dimanche dernier, de manière vraiment intéressante, nous a expliqué lui aussi que beaucoup de chrétiens ont été à l'origine de révolutions dans le monde. L'abolition de l'esclavage, des écoles, de certaines écoles, etc. De beaucoup de choses. La Croix-Rouge, etc. Beaucoup de choses ont été juste l'œuvre de gens qui ont suivi Dieu et qui ont eu des luttes terribles, des combats terribles, mais qui ont tenu ferme. Qui ont tenu ferme. Paul était aussi un modèle de renoncement. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, Philippiens 3, verset 17. Pensons à ce que Paul a laissé de côté, lui. Le confort d'une position sociale reconnue à l'époque. Il était rabbin, il avait des avantages, des acquis. Il avait une notoriété, mais Paul avait renoncé à tout cela. Il avait renoncé au confort matériel, mais il avait compris qu'il avait un grand prix à gagner en suivant Jésus-Christ. Un prix beaucoup plus grand que tout le confort que le monde pouvait lui offrir. Combien de chrétiens sont encore esclaves aujourd'hui de ce confort, de toujours plus de confort. Le matérialisme est un des pièges qui coûte le plus de temps et d'énergie aux chrétiens et à l'Église. Toujours assoiffés, en tout cas pour certains, au dernier gadget qui vient de sortir. Est-ce vraiment les priorités que Dieu attend que d'acheter les derniers gadgets qui viennent de sortir? Paul savait que ce qui faisait vraiment la différence dans la vie de quelqu'un, c'était simplement le revêtement de puissance, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Et pour avancer dans notre vie chrétienne, il est parfois nécessaire de renoncer à certains privilèges, de renoncer à certains acquis. Parfois, ça arrive que Dieu nous demande de renoncer à certains acquis. Quand Dieu te parle, ça peut te coûter cher. C'est vrai. Quand Dieu te parle, ça peut te coûter cher. J'ai fait une expérience un jour, il y a maintenant longtemps de ça. C'était avant qu'on achète cette salle ici. C'était pour l'achat de l'avenue DMC. Et j'étais bien sûr déjà engagé avec le Seigneur, mais je travaillais dans une usine. Je n'étais pas à plein temps encore. Et un matin, le pasteur Jean est venu chez nous, chez sa fille et moi-même, pour prier simplement. Il me dit « Viens, il faut qu'on prie parce qu'il devait signer l'acte de vente, mais il manquait une certaine somme d'argent, je ne sais plus combien. Et puis, il avait encore des rendez-vous avec 2-3 personnes, il essayait de se débrouiller pour trouver l'argent. Et puis, il lui dit, viens, venez, on va prier ensemble. Et on se donne la main avec Karine et papa, et il commence à prier. Et puis, pendant qu'il priait, Dieu me dit, mais cet argent, toi, tu l'as. Et plus il priait, plus j'étais pas bien. Et plus je pouvais pas dire amen à sa prière. Et j'étais travaillé, et puis j'ai rien dit. Il est parti, et j'ai rien dit, mais j'étais pas bien. Et puis je commençais à discuter avec le Seigneur. Je dis, mais attends, c'est pas normal. Toutes ces années de travail et d'économie, et tu veux que je donne maintenant toutes mes économies? Mais c'est pas possible, Seigneur. Et alors je suis rentré dans ma chambre et j'ai commencé à prier dans ma chambre. Je me suis mis à genoux et j'ai essayé de combattre avec Dieu et chercher des circonstances atténuantes et des excuses. Mais je savais que j'avais tout faux. Alors je me suis levé et j'ai dit à Karine, j'ai dit, écoute, de toute façon, je sais pas maintenant papa où il est. À l'époque, on n'avait pas les téléphones portables encore. Il était parti, mais moi je suis parti à ma banque. Et j'ai dit comme ça, quand il revient, et puis si ça n'a pas marché, je peux lui dire que c'est bon, on a l'argent. Et puis vous savez pas ce que ça a produit dans mon cœur, une joie extraordinaire. Et le Seigneur voulait simplement m'apprendre quelque chose de plus dans ma vie. Il m'a simplement fait voir que j'étais très attaché encore à l'argent et que j'étais pas prêt à tout donner pour lui. Et ça, pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinairement libérateur. Ça a été quelque chose de fantastique. Aujourd'hui, j'ai vraiment plus de problème avec ça. J'ai grandi. C'était un passage extraordinaire, même si il est rentré en début d'après-midi en disant que tout était arrangé. Alors oui, il y avait un soulagement dans mon cœur. Je serais malhonnête de vous dire qu'il n'y avait pas de soulagement dans mon cœur. Mais en tout cas, j'ai eu, après plusieurs fois, l'occasion de vivre les mêmes choses. Et ça n'a plus été un problème pour moi. Ça n'a plus été un problème. Et ce n'est plus un problème aujourd'hui parce que je sais que Dieu est là et que nous sommes simplement les gérants de ce qu'il nous donne. Et plus je serai fidèle dans ce qu'il me donne, plus il va me faire prospérer dans mes propres affaires. Je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Et ça aussi fait partie de la foi que nous devons avoir. Paul aussi avait renoncé à son passé. Qu'est-ce qu'on lui aurait conseillé aujourd'hui à Paul, cet ex-persécuteur, cet homme qui avait fait beaucoup de mal? On lui aurait certainement dit, eh bien écoute, il faut que tu suives une thérapie, il faut que tu ailles voir un psychiatre ou faire de la relation d'aide pendant tant et tant de temps. Non, Paul va dire la chose suivante. Il va dire, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul avait une vie avant et maintenant il a une vie nouvelle avec Christ. Ma vie a changé. Beaucoup de chrétiens traînent leur passé comme des boulets et ont du mal à accepter qu'ils sont devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Et nous avons été affranchis, libérés par le sang de Jésus. Il nous a purifiés si nous avons reconnu notre péché, si nous l'avons confessé devant Dieu et devant les hommes. Ne laissons pas à Satan le droit de revenir nous rappeler ce qu'on a été avant. On perd du temps et on perd les bénédictions. Faisons comme lui. Évitons de remuer les fantômes d'un passé auquel nous ne pourrons absolument rien changer de toute façon. Et tournons-nous vers le but. Vers l'avenir. C'est l'avenir qui nous attend. Dernièrement, mon papa était très mal, au point où il a été hospitalisé. Et j'ai eu une discussion avec lui. Et pendant cette discussion, il me disait, tu sais, je réfléchis à ma vie. Et il faisait le bilan de sa vie. Et il me dit, mais j'ai tellement raté de choses dans ma vie. Et ça le rendait pas bien, ça le rendait vraiment malade. Et je lui dis, mais papa, réfléchis à ce que tu as réussi. Et ok, tu as passé tout un temps de ta vie où tu étais loin du Seigneur, mais maintenant, tu es encore fort physiquement, tu es encore plein d'énergie, mais le temps qui te reste à vivre, mets-le à profit pour le Seigneur. considère ce que tu as réussi, mets en avant ce que tu as réussi dans ta vie et rachète le temps. Et tu verras combien que cela, c'est beaucoup plus important que de ressasser le passé qui ne te sert à rien, tu ne peux pas revenir dessus. C'est trop tard, c'est passé. Pourquoi Paul nous demande-t-il à 4 reprises de l'imiter, lui, et non pas d'imiter directement notre Seigneur? C'est une question qu'on peut se poser après tout. Notre modèle, c'est Jésus-Christ, pas un homme. Comme Paul qui a eu ses faiblesses, comme les autres. Paul, car lui-même cherchait à imiter le Christ, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il nous laisse le témoignage d'un homme qui a suivi son maître de tout son cœur. Le Seigneur Jésus pourrait nous paraître peut-être inaccessible, la grandeur de Dieu pourrait nous paraître inaccessible, mais Paul, lui, c'est un homme. C'est un homme qui s'est approché de Dieu de manière extraordinaire. Et il m'encourage, ce Paul, il m'encourage par son propos. Il n'est pas orgueilleux quand il dit ça, il n'y a pas l'once d'un orgueil en lui. Il se présente comme un imitateur de Christ, en se sachant, encore fragile. Suivons Paul dans son exemple pour mieux suivre Jésus. Attention, nous-mêmes, nous sommes imitables. Notre exemple n'est jamais neutre. Je ne suis pas quelqu'un de neutre. Je suis un homme qui a reçu la vie de la part de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé. Je ne suis pas neutre. Je ne suis pas n'importe qui. Qui que vous soyez, vous n'êtes pas n'importe qui. Que vous croyez en Dieu ou que vous ne croyez pas en Dieu, vous n'êtes pas n'importe qui. Et on vous observe, on vous regarde. Un enfant qui regarde son père, qui fait des mauvaises choses, va forcément imiter son père. Regardez les tout-petits. Quand un papa fume une cigarette, vous allez voir combien de temps il va faire pour ramasser un mégot ou prendre n'importe quoi dans la bouche pour faire semblant de fumer comme son père. Parce que tout simplement, il va imiter son père. Et si j'inculque des bonnes choses à mes enfants, forcément, mes enfants vont faire ce que je fais. L'apôtre Paul invite avec passion les jeunes croyants qui l'entourent. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Paul a dit plus tard à Timothée, un jeune homme, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Retenons le bon exemple de nos prédécesseurs, de ceux qui nous ont emmenés à la foi. Soyons pour ceux qui nous suivent également des modèles, des chrétiens modèles qui marchent réellement sur les traces de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande personnellement. Moi, je bénis Dieu d'avoir eu la grâce de vivre à côté de mon pasteur qui est Papa Jean, c'est devenu mon beau-père aussi, j'avais un avantage. Il n'a pas 36 000 filles, il n'en avait que 2. Moi, j'en ai pris une. Je suis avantagé. Mais c'est un avantage. Parce que j'étais à côté d'un homme qui vivait ce qu'il disait et qui vivait la parole de Dieu. Qui a une grande influence sur ma vie et qui continue à en avoir une. Jusqu'à son départ, il continuera à avoir une influence sur ma vie. Et je bénis Dieu pour cela. Mais à mon tour, j'aurai une influence sur ceux qui me regardent, sur ceux qui m'écoutent, sur ceux qui me suivent, ceux qui regardent ma vie. Et avec ma famille, je veux être un exemple, je veux être un modèle, je veux être un encouragement. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Colossiens chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, verset 23. Comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, c'est clair, tout ce que vous faites, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Tout ce que nous faisons, absolument tout, eh bien faisons-le à la gloire de Dieu. On dit facilement Amen, hein, beaucoup de gens disent Amen. On dit facilement Amen. Mais franchement, quand je vais au travail et que j'ai des problèmes avec mon patron ou mes collègues de travail, Est-ce que, quand je fais mon travail, pas avec bon cœur, je suis en train de faire les choses comme pour le Seigneur? Je crois pas. Et c'est ce qui m'est arrivé à moi. Pendant toute une période de ma vie, quand j'ai commencé à travailler, j'étais révolté. Je ne supportais pas qu'on me commande, je faisais très très mal mon travail, je montais des portes de voiture, je trouvais ça tellement pénible, le travail était tellement ridicule. Mais le problème, c'est que j'étais chrétien, je croyais en Dieu. Le problème, c'est que je commençais à ressembler aux gens qui étaient là, qui ne connaissaient pas Dieu. Je tenais les mêmes propos qu'eux. On est des esclaves, on est mal payés, on profite de nous. Vous avez jamais entendu ce discours ? Ah tiens, il y en a qui connaissent ce discours. Il y en a peut-être même qui le disent encore. Hein. Mais moi, c'était mon discours. Mais je ressemblais étrangement à n'importe quel païen. En quoi j'étais différent des gens qui connaissent le Seigneur et de ceux qui ne le connaissent pas ? En rien du tout. J'étais un râleur. Mon chef venait toujours me voir. On m'a menacé de me mettre à la porte tellement je travaillais mal. Et je pleurais un jour sur mon lit, je disais, mais Seigneur, mais c'est injuste, moi j'ai abandonné ce que j'aimais le plus dans ma vie pour toi, et c'est ça la bénédiction, monter des portes de voiture comme un imbécile sur une chaîne. Voilà, ça c'était mes propos, et c'est ce que je disais au Seigneur. Et tout d'un coup, ma chambre s'est remplie de la présence de Dieu, et Dieu qui me dit simplement dans mon cœur, mais je peux rien faire avec toi. Tu n'es même pas capable de faire bien les petites choses qu'on te demande. Et croyez-moi, je savais de tout de suite de quoi il parlait. De mes portes de voiture. Je suis descendu de mon lit. J'étais sur mon lit et je me lamentais. Je suis descendu de mon lit, je lui ai demandé pardon. Et j'ai dit, Seigneur, je serai le meilleur monteur de portes que Peugeot n'a jamais eu. Et si je dois aller jusqu'à la retraite en montant des portes, je monterai des portes jusqu'à la retraite. C'était un défi entre Dieu et moi. Pendant 10 ans, j'ai monté des portes. Vous pouvez demander ma femme. Mais je suis allé au travail avec un autre état d'esprit. J'allais travailler en chantant, en sifflant. Très très vite, mon chef est venu me voir et me dit, hey, « Hé, mais qu'est-ce qui t'arrive, toi ? » Je n'étais plus le même bonhomme. Je critiquais plus le patron qui m'employait. J'étais heureux d'avoir le poste que j'avais. Et puis un jour, les écluses des cieux se sont ouvertes, la bénédiction de Dieu est tombée, j'avais aucun diplôme, je méritais rien, je n'ai rien demandé à personne, je n'ai jamais demandé une augmentation, je comptais toujours sur la grâce de Dieu, sur la justice de Dieu. Beaucoup de gens sont toujours en train de pleurer chez leur patron en disant ah, « je veux une augmentation, ça fait tellement de temps que je n'ai pas eu d'augmentation ». Moi j'ai toujours fait confiance au Seigneur, je dis « Seigneur, toi tu me donnes ce que je mérite, toi tu sais ». Ce que je mérite, tu es mon Dieu, c'est toi qui pilotes ma vie. Et je veux te faire confiance. Et alors, tout d'un coup, le ciel s'est ouvert après 10 ans. On m'a renvoyé déjà à l'école pour commencer, pendant 1 an. Réapprendre le français, les maths, l'histoire, la géographie, enfin tout ce que je n'avais pas fait à l'école. Et puis je suis revenu. Et je pensais en revenant que j'allais faire autre chose. Et quand je suis arrivé à l'atelier, on m'a demandé « Qu'est-ce que tu faisais l'année dernière avant de partir à l'école ?» Je montais des portes du côté gauche. Ah super, eh bien il nous manque quelqu'un du côté gauche, il peut retourner aux portes. J'avoue que les 2-3 premiers jours, je disais, mais Seigneur, ça a servi à quoi que j'aille à l'école? Si c'est pour faire la même chose. Samuel dit, ils auraient pu me mettre à droite. Non, je suis gaucher, ça va pas à droite. Et puis, pendant quelques semaines, j'ai remonté des portes et tout d'un coup, on m'a envoyé ailleurs. On m'a demandé de faire quelque chose d'autre, une mission que j'ai parfaitement réussi. Et après, la bénédiction de Dieu est descendue. J'ai eu des responsabilités. Plus tard, je suis passé cadre dans l'entreprise. Et après, je gagnais super bien ma vie. Faites confiance au Seigneur, mais décidez dans votre cœur de lui plaire, lui premièrement. On n'est pas comme les autres. Quand on a choisi Jésus-Christ, on a reçu une nouvelle identité. Thibault a parlé de l'identité dimanche. Je vous conseille vivement de réécouter tranquillement ce message. Il était tellement riche. On a reçu une nouvelle identité en Jésus. Et nous avons besoin. Je vais conclure, le temps passe vite. Bien-aimé, qui est ton modèle ? Qui est ton modèle ? Qui Qui est ton exemple? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes passions? Quelles sont mes priorités dans ma vie? Toutes ces questions sont importantes. Qu'est-ce que je communique aussi à ceux qui sont autour de moi? Vous êtes déjà posé cette question? Qu'est-ce que je communique à ceux qui sont autour de moi? Et est-ce que je communique vraiment la paix et la joie du Seigneur? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui fait peur? Ou est-ce que je suis quelqu'un qu'on évite? Je ne suis pas en train de juger personne, mais c'est tellement important. Est-ce que je suis un messager de paix? La foi, l'amour, la joie, la passion de certains hommes, de certaines femmes sont tellement communicatives. Être près d'eux nous fait tellement de bien. Ça fait du bien d'être à côté de quelqu'un qui est joyeux, à côté de quelqu'un qui n'est pas tout le temps en train de broyer du noir, et à côté de quelqu'un qui a une ferme assurance en Jésus-Christ. C'est tellement bon. Et on peut réaliser de tellement beaux projets. On se réjouit tellement de voir tout ce que Dieu est capable de faire. Et je l'ai déjà dit souvent, Dieu n'a pas de limite. Aucune limite. Nous vivons des choses tellement merveilleuses. Rien qu'ici, rien qu'avec l'agrandissement de l'Église, c'est tellement extraordinaire ce que nous vivons. L'Église vit un miracle permanent depuis que je connais cette Église. C'est un miracle permanent. Parce que ce n'est pas notre Église. Ce n'est pas de notre propre chef. C'est simplement parce que c'est la maison du Seigneur. Et que si nous restons fidèles, si les serviteurs de Dieu, si tous les bénévoles, tous ceux qui aiment Jésus restent fidèles, il n'y a aucune raison que Dieu ne continue pas à bénir l'Église. Et en finalité, nous n'aurons besoin de l'aide de personne pour financer ce projet merveilleux. Et je crois que Dieu n'a pas de limite. Et que même si cet endroit se remplit, et je crois qu'il va se remplir très vite, eh bien Dieu nous donnera d'autres solutions. Parce qu'il est Dieu. Et nous voulons simplement lui faire confiance. Refusons de nous laisser décourager. Refusons de nous laisser décourager par nos échecs, parce que des échecs, nous en aurons. J'ai eu des échecs et j'aurai encore des échecs dans ma vie. Mais je veux pas, je refuse de me laisser décourager. Je veux juste tirer des leçons de mes échecs et aller de l'avant avec le Seigneur. Je refuse également de rester au point où je suis aujourd'hui. Je veux progresser comme Paul. Je ne veux pas m'arrêter de progresser. Je veux continuer à progresser. Je veux continuer à avancer avec Jésus. Et de plus en plus, chaque jour. Chaque jour. Et c'est tellement bon. C'est tellement bon de savoir que le programme n'est pas terminé. Ça serait tellement triste de savoir, mais tu ne peux pas aller plus loin avec Jésus. Ça serait terrible. Mais quelle joie de savoir qu'il n'y a pas de limite avec lui. Quelle joie de savoir qu'on n'a pas fini, qu'on va vivre des choses encore plus merveilleuses, encore plus puissantes. Jusqu'où voulons-nous aller avec Jésus? Mes amis, simplement laissons-nous porter, encourager. L'apôtre Paul avait compris beaucoup de choses. Et je répète, il était en prison quand il écrivait ses lettres. Mais il était tellement heureux dans son cœur. Et de fond de sa prison, il nous encourage à être toujours joyeux. C'est extraordinaire. Soyons toujours joyeux. Réjouissons-nous du programme que Dieu a prévu pour chacun de nous et que son nom soit béni et glorifié. Amen. Amen. Amen.